La chronique de Marc Boilard, présentée par le groupe Saillant et ses 5 concessions. Option Subaru, Laurier Mazda, 5 fois Toyota, 5 fois Hyundai et Saillant Autocrédit.
15h08, Marc Boilard, bonjour et bravo.
Bonjour et bravo à tous, ma gang de vous autres. Grand plaisir de vous rejoindre.
Je vais inverser tes sujets parce qu'il faut qu'on règle ça. Là. T'as-tu vraiment écrit dans notre... Parce qu'on a une conversation vraiment numérique un peu le matin pour préparer ça. Mm-hmm. Que les films de Noël, c'est zéro?
Zéro.
T'as vraiment écrit zéro ou tu voulais écrire bravo puis le correcteur t'a joué un tour?
Zéro. Et d'ailleurs, je vais même te prendre une petite parenthèse pour te dire la différence entre zéro, ouais, l'expression zéro, et c'est zéro. Non, mais c'est important parce qu'on est la précision des mots, Sylvain. Si, admettons, tu me dis « Hey, les films de Noël », puis je réponds « c'est zéro », ça veut dire que je pointe ta proposition elle-même, c'est-à-dire les films de Noël. Si tu me dis « Hey, les films de Noël, qu'est-ce que tu penses de ça ?» puis je réponds juste « zéro », je pointe ta proposition et je t'inclus dedans. Ça veut dire que toi aussi, t'es zéro, juste de me l'avoir proposé. Alors, ça, c'est pour fermer
c'est
la parenthèse.
Encore plus fort. Mais tu, c'est non, encore plus fort. Zéro, c'est encore
exactement.
Plus fort.
Exactement. Je savais que Jean-Simon allait apprécier ses ouais, subtilités.
Non, j'aime beaucoup.
Espérer ton retour, c'est zéro.
Ben, tu vois, ça veut dire qu'elle me le dit à moi personnellement. Mais tout ça pour te dire, je vais te dire juste pourquoi. C'est parce que je vois chaque année une frénésie de ciné-cadeaux à Télé-Québec.
Oui.
Je fais comme, expliquez-moi, suis-je bien comme vous en 2020, bientôt 21, ou est-ce qu'on peut regarder les films qu'on veut? D'ailleurs, toutes les Astérix qui sont à Ciné-Cadeau, vous savez qu'ils sont sur YouTube. Hein? C'est gratuit, YouTube, dois-je le rappeler?
Arrête, je les attends. Je les attends toute l'année. Mais c'est le plaisir de l'attente et du désir.
Non, mais qu'est-ce que t'attends d'autre dans vie que tu peux avoir à volonté quand tu veux? Explique-moi ça.
Non, mais
sur ton téléphone, mobile.
Mon cadeau de Noël, là, que probablement ma mère a acheté, là, je m'en vais pas le déballer là. J'aurais toujours pu le déballer. Il est au pied de l'arbre. J'attends le 24 au soir après la messe de minuit, qui est long. C'est long. Maudit que c'est long. Mais tout le plaisir est là, Marc. C'est ciné-cadeau, c'est l'équivalent du blé d'Inde. Il est bon une fois par année et on l'attend tout le reste. Le reste, le Californien, on en a rien à foutre. On veut celui de Neuville. Ben, le blé d'Inde de Neuville, il est comme les bleuets de Mistassini. On les attend. C'est comme quand on était jeune, Marc, à ton âge, tu devrais te souvenir de tout l'argent que t'as ramassé pour ton premier album de Paul Piché, mettons.
Ben oui, mais justement, il était inaccessible, fallait que je ramasse de l'argent. C'est pas comme un film d'Astérix, c'est le chaudron, que je peux écouter quand je veux. En passant, en parlant de légumes et de fruits qui goûtent rien, j'ai acheté des framboises au Costco, du Mexique. Elles ont trois caractéristiques, goûteuses, juteuses et absolument insipides. J'ai vraiment croqué dans du carton, mais rouge. C'est comme hallucinant comment ces espèces de...
Alors, tu rejoins qu'on est mieux d'attendre les framboises de l'île d'Orléans qui sortent une fois par année. Ils ont une saison.
Absolument.
Comme
absolument,
c'est la saison des films de Noël. Je ne peux pas regarder un Astérix où je peux le reste de l'année, mais ça n'a pas la même saveur.
Mais depuis quand c'est un film de Noël, en plus? Un Astérix? Il n'y a pas d'arbre de Noël là-dedans.
Ouais, ça, là-dessus.
Il n'y a pas père de Noël-X.
Ça, là, j'ai rien à dire.
Il y a juste au Québec qu'on a ça.
Non, mais les autres films de Noël, d'ailleurs, je sais que tu m'as envoyé un texte là-dessus. Là, c'est démontrer que les films de Noël, c'est des films qui sont, comment je pourrais dire, on sait d'avance un peu que ça va bien finir. On en finit par connaître les répliques par cœur quasiment. Mais il y a quelque chose de rassurant puis de le fun là-dedans.
Je fais des blagues. C'est juste que je trouve ça quand même un petit peu spécial que des gens attendent une seule fois dans l'année après un programme, puis le reste du temps, moi j'ai coupé le câble, moi j'ai coupé le câble, moi je suis au-dessus de ça, puis là tout à coup, yes, ciné-cadeau, à telle heure on est devant la TV. Tu sais, c'est un peu weird.
C'est toujours les mêmes en passant. Il y a pas. Est-ce qu'il y a des nouveaux films de Noël?
Il y en a quelques-uns, mais le monde attend toujours Astérix.
Ça se fait pas mal.
C'est à peu près les mêmes. Ouais, tout le temps les mêmes, ou à peu près, mais il en rajoute quelques-uns des films d'animation, mais ça intéresse personne. Le monde veut vraiment retrouver quelque chose.
C'est vrai, hein? Exact.
Et sans blesser un de nos collègues chroniqueurs, là, je vous jure qu'Astérix bat Pierre-Yves McSween. Regardez les codes d'écoute de Ciné-Cadeau.
Ah!
Je suis sûr qu'à Télé-Québec, ce sont les émissions les plus regardées.
Probablement.
Ils battent les francs-tireurs, puis ils battent Pierre-Yves.
C'est vrai que c'est fascinant comme phénomène un peu. Là,
oui.
Parce qu'on reste
sérieux,
un peu stallé dans ces vieux souvenirs-là de vieux films. T'sais, moi aussi, je connais par cœur ces affaires-là. J'ai écouté quand j'étais enfant, mais j'abonde un peu dans le même sens que Marc. très honnêtement, je trouve que souvent les films de Noël sont sans saveur ni comme des framboises du Mexique.
Des framboises du Costco.
Les films de Noël, je trouve que c'est des framboises du Mexique.
Ben, moi, moi je vais être plus poétique. Moi, Ciné Cadeau me rappelle mes bons vieux samedi matin de comique qu'on attendait toute
la semaine. J'aimais ça. Mais on n'avait pas le choix, c'est ça mon point. Sinon, je les aurais écoutés en rafale, comme tout le monde, comme Liz qui doit écouter plein de séries tout à coup, paf, en rafale.
Bon. Ce que tu consommes plus rapidement et sans aucun effort goûte beaucoup moins bon. Écrivez ça, là. Mettez ça sur Facebook avec une belle photo, là.
Un coucher de soleil.
Avec un coucher de soleil, là. Puis oui. Likez ça, puis partagez ça. C'est de la grande philosophie. Ouais. Maintenant, on switch. Tu veux me parler d'un effet que ça existe toujours, mais on le vit vraiment avec la COVID-19.
Ah oui, grave.
Je pense que ça s'appelle en psychologie l'effet des nombres ou je sais pas trop, là. Parle-moi de ça, c'est vraiment intéressant.
C'est dans une petite revue que j'ai découvert sur Internet. GRIST, G-R-I-S-T. C'est super intéressant. Je te regarde tout de suite, là, d'entrée de jeu. Okay, tu vas comprendre. C'était une compagnie un peu à la léger marketing qui s'appelle Pew, on voit ça souvent aux États-Unis entre autres, qui disait que en mars, à la question des Américains qui avaient été interrogés là-dessus, en mars, quel était le pourcentage de gens qui suivaient de très près l'évolution de la COVID-19? C'était 57%, en octobre, 37%. Est-ce que ça s'est calmé aux États-Unis entre mars et octobre?
Au contraire.
Au contraire.
Ça a augmenté, la COVID-19, mais voilà. Les gens s'y sont désintéressés. Pourquoi?
Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. C'est la même affaire que pour le climat, où est-ce qu'à un moment donné, les nouvelles sortaient, puis tu sentais que ça avait un certain effet, puis qu'on dirait que, bien tristement, cet effet-là s'estompe. Et ce qui se passe, moi, je trouve ça super intéressant, c'est que, il y a plein d'explications à ça. La première, c'est que, à partir du moment où tu réalises que tu n'as aucune emprise sur un problème, tu as l'impression que tu vas t'en désintéresser. Ça, c'est la première affaire. Exemple, il disait qu'il avait fait un test en 2007. Ils ont fait un test où il disait, il montrait à des gens une photo d'une petite fille, vraiment très vision mondiale, puis avec le même texte, etc., puis à un groupe, puis à l'autre groupe, il montait la même petite fille avec le même texte, mais il rajoutait, outre, voici une petite fille de 7 ans qui meurt de faim, blablabla. Dans l'autre photo, il rajoutait « Voici une petite fille qui meurt de faim, ainsi qu'un million d'autres enfants dans son pays. » Sylvain, 50% moins de dons qui étaient faits pour le deuxième groupe.
C'est fascinant.
Le deuxième groupe. Puis t'en as parlé un petit peu tantôt quand tu disais si on pouvait rentrer les caméras.
Ouais.
Peut-être que sans t'en rendre compte, t'as touché un point encore plus vrai qui milite pour ta théorie. Puis ton idée d'aller voir, c'est que la dame là qui a été aux prises avec ça, etc., puis celle que tu as vue dans le reportage en France, tu as vu une personne. À ce moment-là, tu peux t'identifier, contrairement à quand on dit il y en a eu 100 000, mais que tu ne vois pas.
Parce que les études, puis j'ai lu ton texte, c'est fascinant. Ils l'ont même fait juste de mettre une personne, une photo d'un enfant qui souffre, puis tu collectes de l'argent, sans même rajouter, des fois, ils rajoutent des infos, comme Marc l'a mentionné. Oui. Mais juste une personne, est-ce que vous voulez donner, ou vous en mettez deux? Déjà deux, trois, quatre, cinq, ça donne moins. L'effet du nombre, à un moment donné, on perd. Là, on est rendu à quoi? 7 000 victimes de la COVID-19.
On perd le fil.
On a perdu. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Il n'y a plus de visage là-dessus.
Puis la preuve, c'est que quand on lit la nouvelle, puis là, je vais parler au « on ». Dans le fond, je devrais dire « je », mais je suis convaincu que vous faites pareil. C'est-à-dire que on retient tout le temps le nouveau chiffre des infections chaque jour, puis on ne regarde même pas on est rendu à combien. On ne regarde plus! On le sait que c'est à peu près 1700 de plus ou peu importe, mais ce chiffre-là est pas clair. Si tu demandes à quelqu'un, on est rendu à combien de morts et d'infections au Québec? C'est très rare les gens qui vont répondre.
Et
donc, si tu passes, ça va mieux? Ben, pas tant.
Puis il s'est passé de quoi par rapport à la première vague aussi? Je me souviens très bien parce que je m'en souviens parce que j'étais là puis on est payé pour ça, là, regarder les médias.
Ben oui, ben oui.
Le nombre de morts était toujours la stats la plus importante dans la première vague. Le nombre de cas aussi, mais c'était d'abord et avant tout le nombre de morts. Là, à tous les jours, c'est le nombre de cas qui fait les manchettes de tous les médias. 1800, oui. 1900, 2000. Les morts, c'est comme 25, 30, 40. Il me semble que le nombre de morts demeure encore important. N'oubliez pas que dans les cas, il y en a que je veux pas banaliser, vous connaissez mon discours, mais il y a des asymptomatiques.
Non, la majorité, en fait, sont...
Il y a des gens qui vont s'en relever en deux, trois jours. Mais non, Là, les morts, on a décidé, je sais pas à partir de quand, là, ouais. Ça ne touche, je le dis durement, mais ça ne nous touche plus.
Mais c'est l'effet.
C'est plate, mais c'est chaud.
Ça me fait penser, Marc, ce que t'amènes. Hélène Kurdi, vous souvenez-vous, la question des réfugiés, la crise des réfugiés, comment tout le monde s'en contrefoutait, mais s'en contrebalançait. Jusqu'à ce qu'on ait la photo d'un petit garçon échoué sur une plage.
Hélène, c'est devenu la question la plus importante de l'actualité.
Voilà. Or, es-tu capable de me dire combien de réfugiés ont perdu la vie en essayant de traverser en Europe? On n'en a aucune espèce d'idée.
Non.
On le sait pas. Mais on se souvient d'Hélène Kurdi, l'image.
Oui. Exactement. Puis c'est que dans le fond, l'autre affaire qu'on apprend dans l'article et que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on peut pas toujours être en état d'urgence non plus. C'est qu'à quelque part, je suis désolé de vous l'apprendre, mais cette réaction-là qu'on a, elle est positive. C'est-à-dire qu'imagine si à chaque fois qu'il y avait un effet de nombre qui nous faisait peur, on restait dans cette peur-là automatique jusqu'à temps que le problème soit complètement fini. Puis je te rappellerai quelque chose, Sylvain, que tu es au courant, parce que je sais que tu es un fan de Deuxième Guerre mondiale, mais les Allemands pensaient que pendant plusieurs mois de bombarder Londres, ça allait faire plier le gouvernement qui se disait « Crime, il faut qu'on, c'est la reddition, on arrête. » Puis ils sont en train... Ben non, les Allemands vivaient le quotidien, en ayant des bombes qui leur tombaient sur la tête. Puis moi, j'ai connu une fille au Liban, OK, Naila, je me souviens, puis elle m'avait posé une question hallucinante. On jasait de tout et de rien, puis elle m'avait dit, parce qu'elle vivait là-bas, elle m'a dit, tu sais quoi, toi, aller à l'école, puis tout à coup, il y a une bombe, les enfants sont aux primaires. Les enfants, on s'en va dans le sous-sol parce qu'il y a des bombes. Puis elle dit, sais-tu quoi? Elle dit, tu remontes, puis tu continues ton cours de maths. Hey, imagine si ça arrivait une fois ici, il y a une bombe. La preuve, c'est que, j'ai vu une caricature très drôle, il y a, dans une journée aux États-Unis, à peu près le même nombre de morts qu'il y a eu le 11 septembre. Une journée, le 11 septembre. Le 11 septembre, combien de temps ça a duré l'effet de l'effondrement des tours, alors qu'après le 3000 quelques morts qu'il y a eu, ça a été terminé, parce qu'il n'y a pas eu le lendemain un autre 3000, puis le lendemain d'autres tours. Mais c'est rendu que c'est comme, ben oui, 3000 morts. Ah ouais, les chiffres ont monté. Ouais, puis ciao, bye, blablabla. Bla, bla. C'est de même. Mais le pire, c'est que c'est pour une bonne raison. Le système, il est fait de même parce que sinon, on se rend constamment en train d'halluciner sur tout.
Ouais.
Alors qu'à quelque part...
Sauf que quand tu veux convaincre les gens, t'as raison qu'il y a une raison le biologique de l'évolution, de je sais pas quoi, de notre cerveau, qu'on fonctionne de même. Mais quand t'es un gouvernement, moi, c'est un des reproches que je fais d'ailleurs à Legault. Legault aurait dû... Tout ce que t'as dit là, Marc, là, si François Legault est pas au courant, on a un méchant problème. On vit la plus grosse crise sanitaire de notre génération. J'espère qu'il y a des psys dans l'équipe un peu qui disent à François Legault, pour que ton message passe, il faut qu'on puisse mettre un visage sur les victimes. Il faut qu'à un moment donné, si tu donnes juste des chiffres dans tes points de presse, ça ne sera pas suffisant. J'espère qu'il est au courant de ça. D'après vous, il sait-tu ou il sait pas?
Moi, il sait pas.
Tu penses qu'il est
puis
pas...
à travers le monde, ils le savent pas bien, ben. Non. Sais-tu pourquoi? C'est très drôle que tu parles de ça. Parce que, aujourd'hui, là, il y a quelque chose. Je parlais avec mon neveu, OK?
Ouais.
Louis, il est en train de faire des entrevues. Il a fini son bac en informatique à l'Université Laval. Puis là, il me dit, hey, j'ai des offres, puis telle affaire, puis c'est blablabla. Puis là, je l'écoutais parler, puis je me rendais compte qu'il était habile dans une entrevue, tu sais, parce qu'on jase l'entrevue elle-même, etc. Puis j'ai fait, veux-tu même dire, toi, comment ça se fait que s'il y a un point en commun de tout le monde qui nous écoute qui ont eu des jobs dans la vie, c'est-à-dire l'univers, il y a un point en commun de tous nos jobs, Sylvain, tous. Jean-Simon, Elisabeth, toi, Jean-Jean, l'autre bord de la vitre, le gars qui est en train de... le squid, tout le monde qui ont eu une job, il y a un point en commun, on a passé une entrevue.
Ouais.
OK?
Oui.
Quand est-ce qu'on se fait dire comment passer une entrevue?
Comment passer une entrevue?
Moi, j'ai qui t'a montré comment passer une entrevue?
J'ai lu sur Facebook qu'à la question « Quel est ton défaut? » il faut répondre que t'es perfectionniste. Ça n'a jamais été essayé, puis ça marche. Puis tu...
non, mais très bon gag d'ailleurs, parce que j'en reviens pas à quel point c'est tout le temps le même défaut. Oh mon Dieu, je suis donc perfectionniste. Ouais, ben, dans mon cas, en plus, c'est un vrai défaut. Mais peu importe, je trouve que c'est une aberration. Ça fait qu'on fait tout le monde passe par là, puis personne... nous enseigne le moindrement à l'école. By the way, là, on va passer une heure sur un bac de 3 ans, un deck de 3 ans, peu importe. On va vous montrer là, des mises en situation. On va pratiquer comment faire une entrevue. Puis ça peut faire la différence entre tu vas avoir la job que tu veux puis une que non. Personne.
Donc, tu penses que les communications, tout même ce qui affaire. Est l'aspect psychologique...
Même affaire, mon vieux.
Même François Legault, il y a personne qui a dit ça serait peut-être bon qu'il rentre à tous les jours que tu aies des journalistes dans les hôpitaux pour qu'ils puissent témoigner de ce qui se passe et montrer des visages. Parce que je suis en train de lire un livre qui porte pas là-dessus, mais bon, l'être humain peut avoir de l'empathie. T'sais, puis là, c'est ce qu'on nous demande présentement. Tous les sacrifices qu'on nous demande, c'est on le fait pas pour nous, surtout si vous avez mon âge ou tout ça, là, on le fait pour les autres. Donc, on a besoin d'empathie.
Oui.
Or, l'être humain, la façon dont notre cerveau fonctionne, on ne peut avoir d'empathie pour des gens qu'on ne connaît pas. Ça serait merveilleux. Là, on vivrait tellement dans un beau monde.
Ouais.
Ah, les gens éloignés, etc. Là, je dis pas que c'est pas souhaitable, là, mais c'est comme ça chez les bébés et les enfants. Là. Ce qui est différent de nous, ce qu'on connaît pas, ce qui est étranger, on ne développe pas d'empathie. Rapidement, je sais que t'aimes ces exemples-là, Marc, de psychologie, là, mais je résume en 30 secondes. Ils ont fait des études dans des garderies, des jardins d'enfants, comme ils appellent dans certains pays, ou CPE. Ils ont juste divisé les enfants. Il y en a qui ont mis des t-shirts rouges, puis d'autres des t-shirts bleus. Juste changer la couleur de l'habillement, ils ont divisé en deux groupes. Et l'expérience a été répétée à maintes reprises, avec toujours les mêmes conclusions. Les enfants développent de l'empathie, les bébés, pour les gens qui ont la même couleur du chandail.
Ouais,
les autres, on s'en occupe pas, on partage pas les jouets avec eux, on joue pas avec eux, on s'en occupe pas. C'est en nous profondément, c'est triste et malheureux, mais c'est ça. Là, on va demander aux gens de pas se réunir avec leur famille qu'ils aiment, leurs enfants, leurs tantes, leurs parents, là, qu'ils abordent au nom de gens qu'ils ne connaissent pas puis qui ont jamais vu, qui sont pognés dans les hôpitaux. Monsieur Legault, bonne chance. Mais une fois que vous savez comment ça fonctionne dans le cerveau, tu peux le combattre. Il faut nous rendre solidaires. Il faut développer de l'empathie envers ces gens-là. Donc, il faut les entendre. Il faut les voir. Or, depuis le début, on les cache. Personne rentre dans les CHSLD, personne rentre dans les RPA, à peu près personne rentre dans les hôpitaux, sauf quelques rares exceptions. Puis on nous demande de sacrifier notre Noël avec les gens qu'on aime pour des gens qu'on ne connaît pas. Le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. L'oxytocine, qui est exactement la molécule là, de l'empathie, ça, c'est la même que l'amour, malheureusement, elle est exclusive. Un peu comme en amour, on dit que l'amour rend aveugle. L'empathie, c'est pareil. L'oxytocine ne fonctionne qu'envers les gens proches de toi. Les étrangers, les autres, les vieux dans les hôpitaux. Legault a bien beau dire, sacrifiez-vous pour eux. Notre cerveau va dire, no way. Moi, je développe de l'oxytocine et de l'empathie pour les miens, mes proches.
Parce que c'est ça, ce que tu décris,
c'est même que ça.
Ouais. Ben c'est une partie de c'est quoi le monde civilisé.
Ouais.
C'est que quand on a arrêté de dire c'est la loi de la jungle qui est la loi principale, ben il faut faire violence sur ces affaires-là. C'est pour ça qu'il y a du droit, c'est pour ça que tu comprends. Ça fait qu'à un moment donné, tu peux donner un coup de pouce à ça aussi. Puis la réalité, c'est que quand tu regardes des trucs comme ça, où ce que tu te rends compte que, hein, mon Dieu, c'est documenté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je peux identifier... L'exemple de Jean-Simon, il est malade. Il résume encore mieux tout mon truc.
Avec le petit Ilan.
Tu t'entends parler d'immigrants, puis là, l'immigrant...
En voyant la photo de cet enfant-là, on a développé de l'empathie dans notre cerveau parce que les gens se sont mis à dire « ça aurait pu être le mien,
exact.
Ça aurait pu être mon enfant, ça aurait pu être un parent, parce que les enfants, ça se ressemble tous un peu. » On a mis un visage sur une tragédie. L'oxytocine dans notre cerveau s'est mis à fonctionner. On a développé de l'empathie, de la solidarité. Malheureusement, ça n'a pas duré parce que c'est éphémère. Mais bon, pendant un bout de temps, c'était le sujet numéro un. Si vous voulez qu'on développe de l'empathie envers les victimes de la COVID-19, Monsieur Legault, vous êtes dans le champ. Vous avez pas idée, là. Arruda, il est bon, peut-être, Dubé aussi, votre gang. Ça vous prend même, honnêtement, consulter un psy. Mais non, les psys, c'est mal vu. On n'a pas besoin d'eux autres. On a besoin de spécialistes en communication, en gestion de crise. Comment contrôler les médias, les journalistes, contrôler les entrevues. Ah, ça, sont bien bons là-dedans, les bureaucrates. Mais ça prendrait trois psys, là, puis ils écouteraient vos points de presse, M. Legault, puis ils vous diraient, qu'est-ce que vous faites, là? Ce que vous demandez aux gens, c'est impossible. Leur demander de bouder, de sacrifier leurs proches qu'ils aiment pour des gens qu'ils connaissent pas, ils ne le feront pas. Le 24 décembre au soir, si vous voulez pas donner, restez chez vous, allez pas dans les rues, ça va se réunir partout. Je vous le dis, là, partout. Puis en même temps, vous pouvez leur lancer la pierre, mais c'est humain. Les gens vont dire, t'as peu, là, wow, c'est pas vrai que je verrai pas mes enfants. Ouais, mais tu pourrais te tuer éventuellement, ça pourrait avoir une répercussion mortelle chez une personne âgée. Ça marchera pas, notre cerveau. Non, ce bout-là, là, oublie ça.
Il est évacué.
C'est qui? Qui va mourir à cause de ça, là? Un vieux, une vieille, quelque part, dans un CHSLD? C'est pas concret, moi, je blâme personne. Je vous dis ce que les psys racontent de façon scientifique sur l'empathie. C'est ça. Il y a certains peuples qui développent de l'empathie envers la communauté élargie à la famille. On pense notamment au peuple allemand, où la camaraderie, la solidarité a toujours été forte. Quel est le peuple qui résiste le mieux à la COVID-19 depuis le début? Les Allemands. Pensez parce qu'ils sont plus intelligents que nous autres? No way! Angela Merkel est meilleure? Non. ou non et oui, les Allemands ont un fort sentiment de communauté. Mm. Pour eux, faire des sacrifices pour un inconnu, c'est un Allemand, c'est bon.
En Asie aussi, même chose.
En Asie, même chose. Au Québec, nous sommes individualistes et on tombe un peu dans le piège de l'empathie, oui, pour la famille. Mais c'est pas du mauvais monde, ceux qui vont faire des parties de Noël.
Non, pas tous.
Pensez-vous vraiment qu'il y en a qui font un party de Noël pour tuer quelqu'un?
Il y a personne qui est méchant.
Zéro. Ils font un party parce qu'ils aiment leurs proches. Si Legault avait voulu les convaincre du contraire, aurait fallu qu'il nous fasse rentrer dans les hôpitaux, là, 6 mois. Mais il a tout caché. Il a caché la COVID-19, puis là, il s'en va au micro, puis pensez aux personnes âgées. Excuse-moi. 100% des psys vont dire, t'es dans le champ. Mais c'est pas des psys qui consultent, c'est des experts en communication. Un communiqué de presse, dites-en le moins possible. Ah, les maudits médias! Le moins possible! Caché, camouflé! Ben ouais, ben regarde. Un jour, on jugera ça. Un jour, dans 4 ans, quelqu'un évaluera ça. On s'en reparlera. Marc, merci, je me sens emporté.
Ben ouais, mais écoute, moi je t'écoute et c'est fascinant. J'ai jamais été payé pour moins faire. C'est que j'ai le même prix. C'est le même prix.
Salut, Marc.
Salut.
Non, mais quand on parle ces affaires-là, j'aime ça. Vous savez, c'est des affaires. Je sais que Marc s'intéresse aussi à ces choses-là. 25-226. Si vous voulez mes références, moi, vous les donnez. Si vous doutez de ça. Mon message, j'espère que vous le prenez bien. Il est pas méchant, là. Au contraire, il est...
Non, c'est
empirique. Ça donne rien de juger les gens qui vont faire des parties à Noël. Il faut essayer de les comprendre. Moi, j'essaie juste de comprendre. Puis j'en ai dans mon entourage, j'en ai autour de moi. Il y en a qui m'ont écrit des tas d'auditeurs. Je les juge pas. Même qui me disent, Sylvain, j'aime ma famille, je vais voir ma famille. Il y a de quoi là-dedans d'hyper beau. Ouais, mais moi, dans ma tête, je sais, là, si vous êtes dans la gang, je sais que ces réunions-là vont faire mourir du monde.
Certainement.
On va le dire, vont faire mourir du monde.
C'est clair.
Mais alors pourquoi? Ben là, c'est ça. Là, j'ai lu des livres encore récemment, me suis plongé là-dedans. Pourquoi on peut pas développer de l'empathie pour des gens qu'on connaît pas? C'est humain. Notre cerveau a toujours été comme ça. C'est une molécule, l'oxytocine, qui fonctionne de même. Ce qui est autour de toi, ce qui a un visage commun, ce qui a un... Ils font que des bébés, là. Les bébés, c'est assez innocent, là. Ça vient de naître, là. C'est pas... Puis tout de suite, c'est un peu décourageant, là. Tout de suite. Je pourrais vous nommer d'autres exemples encore plus fascinants, mais c'est poussé, c'est sa gang. Il développe l'effet de ma famille, mon monde, mon groupe. L'autre, quand t'es pas là-dedans, oublie ça. C'est déjà...
On est des êtres tribaux.
C'est ici, comme ça. 15h29 au FM 93.
La chronique de Marc Boilard, présentée par le groupe Saillant et ses 5 concessions. Option Subaru, Laurier Mazda, 5 fois Toyota, 5 fois Hyundai et Saillant Autocrédit.